Imaginons un instant l'arrivée au bureau le matin. On franchit la porte d'entrée, on s'installe à son bureau et on commence à bosser.
Ouais, un truc tout ce qu'il y a de plus banal, quoi.
Voilà. C'est simple, c'est fluide, mais transposons un peu cette expérience à notre informatique moderne. Pour faire exactement le même travail sur un ordinateur, c'est comme si on devait badger à la porte principale, puis rebadger pour entrer dans le couloir.
Ah oui, l'enfer logistique.
C'est ça, utiliser une troisième clé pour la salle de réunion, une carte différente pour ouvrir le tiroir de son propre bureau, et limite une empreinte digitale pour avoir le droit d'utiliser un stylo.
Ce qui fait genre des dizaines de portes à déverrouiller en permanence.
On parle d'une moyenne de 47 portes différentes, ouais. Et le pire, parce qu'il y a pire, c'est qu'à chaque fois qu'on quitte son bureau juste pour aller chercher un café, il y a quelqu'un qui s'introduit dans la pièce, qui efface tout le tableau blanc, qui mélange absolument tous les dossiers, et quand on revient, on doit tout réorganiser avant même de pouvoir recommencer à réfléchir.
C'est un scénario cauchemardesque que tu vois. Personne tolérerait un niveau de friction pareil dans le monde physique. Enfin, le coût cognitif de cette réorganisation perpétuelle, c'est juste insoutenable.
Et pourtant, c'est très exactement ce qu'on subit au quotidien derrière nos écrans. Et c'est justement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur une recherche vraiment fascinante et un diagramme de synthèse qui s'appelle Les quatre primitives de l'informatique, publié par Rogan Spark Research.
Ouais, un document super riche.
Complètement. L'idée ici, c'est pas de faire le procès d'une application ou d'un système d'exploitation en particulier. La mission de cette analyse, c'est de décortiquer l'architecture invisible de notre vie numérique. On va essayer de comprendre pourquoi nos machines, qui ont pourtant une puissance de calcul absolument colossale, elles semblent chroniquement amnésiques. Elles sont incapables de garder le contexte de notre travail d'une heure à l'autre.
Le diagnostic que pose ce document, il met vraiment le doigt sur un problème structurel profond. Comme tu disais avec ton analogie, l'utilisateur moyen, il jongle avec à peu près 47 applications.
C'est un chiffre qui donne un peu le vertige, non?
Ah bah c'est clair. Entre l'outil de prise de notes, l'agenda, souvent trois ou quatre applications de messagerie différentes, parce que chaque cercle social ou pro utilise la sienne, et je te parle même pas des multiples services cloud ou des outils ultra spécialisés.
Ouais, on passe notre vie à sauter d'une fenêtre à l'autre.
Exactement. Et à chaque saut, on force notre cerveau à reconstituer mentalement tout l'environnement de travail.
Et nos sources, elles pointent une faille de conception majeure là-dedans. C'est que chaque application est devenue une sorte de petit royaume isolé, tu vois, barricadé derrière ses propres frontières.
Ouais, les fameux silos.
C'est ça. Les conversations, elles sont coincées dans Slack, les maquettes visuelles enfermées dans Figma, les textes bloqués dans Apple Notes. C'est structurellement impossible de prendre une idée sous forme de texte et de la poser juste là, numériquement, à côté d'un design dans un espace neutre.
Parce que l'informatique a complètement oublié d'intégrer les fondations spatiales que notre cerveau utilise naturellement dans le monde physique, quoi.
C'est fou quand on y pense. Et l'industrie de la tech, elle fait quoi face à ça? Elle s'en rend compte de cette fatigue numérique.
Ah oui, l'industrie n'est pas aveugle, loin de là. Les développeurs savent que les gens sont épuisés par cette fragmentation. Le truc, comme l'explique la recherche, c'est que la solution qu'ils essayent de nous vendre en ce moment se situe vraiment au mauvais niveau de l'architecture.
C'est ce que l'étude appelle le piège de la super app, c'est ça?
C'est exactement ça. Ce concept de super app, il est partout aujourd'hui. On le voit très bien avec Notion, par exemple.
Ouais, qui était juste un outil pour prendre des notes au départ.
Voilà, et qui essaie maintenant de tout faire. Ils intègrent des tableurs, de la gestion de projets, des calendriers et même de l'hébergement de sites web, genre tout en un.
Et on voit la même chose ailleurs. Figma qui ajoute des espaces de collaboration texte. Slack qui met des toiles de travail blanches.
C'est ça. Chaque entreprise voit bien qu'il y a un manque d'interopérabilité. Donc leur réaction, c'est d'essayer d'absorber toutes les fonctionnalités des concurrents dans leur propre interface.
Pour essayer de nous garder captifs chez eux au fond.
Bah oui. L'intention affichée, c'est de réduire la friction pour l'utilisateur. Mais le résultat concret, c'est juste la création d'une fragmentation encore plus luxueuse, quoi. Plus rigide.
Une prison dorée.
C'est le mot. Chaque application devient un pays souverain qui veut être autosuffisant, avec ses propres règles, ses propres formats. La collaboration en temps réel dans Figma, elle est hyper fluide, d'accord? Mais elle n'appartient qu'à Figma.
Donc, si un de mes clients refuse de se créer un compte sur Figma, il exclut du processus créatif, tout simplement.
Au lieu de casser les murs entre les royaumes, on a juste construit des forteresses beaucoup plus grosses et encore plus isolées.
Mais attends, il y a une objection assez naturelle qui me vient quand on parle de ces îlots logiciels. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de régler ce problème avec les grands écosystèmes D, genre l'environnement Apple ou Google Workspace?
C'est une bonne question.
Enfin, tant qu'on reste sur leurs appareils.
C'est sûr que l'approche par le OS ou la plateforme centralisée, ça apporte un confort énorme. La friction diminue vachement. Mais parce qu'il y a un grand mais, cette harmonie, elle s'arrête net aux frontières de la marque.
Ouais, le fameux jardin clos.
C'est ça. Le monde pro aujourd'hui, il est hétérogène. Quelqu'un peut très bien taper un rapport sur un PC Windows au bureau, vérifier ses notes sur un iPhone perso dans le métro, tout en collaborant avec une agence externe qui, elle, est sur Google.
C'est un peu la galère quotidienne de tout le monde.
Et dès qu'on franchit le mur de ce jardin clos, bam, on retombe dans le chaos de la fragmentation. Donc pour vraiment unifier l'informatique, le document de Regenspark démontre qu'il faut descendre beaucoup plus bas, en dessous de l'application et même en dessous du système d'exploitation.
On parle de descendre au niveau des protocoles, là. Et c'est une nuance qui est vraiment cruciale à comprendre.
Complètement.
Parce qu'un protocole, bah, il s'en fout royalement du matériel ou de la marque de l'ordinateur. L'email, par exemple, c'est un protocole. Ça garantit que le message arrivera, que je l'envoie depuis l'appli Gmail d'un vieux téléphone Android et que la personne le lise sur le Outlook d'un gros PC de bureau. C'est un langage universel. Personne ne peut privatiser l'email.
Exactement. Et le web, c'est le meilleur exemple historique d'un protocole qui a marché avec HTTP. Avant ça, l'information numérique, elle était coincée sur des réseaux fermés. Le web a ouvert tous ses silos pour créer une bibliothèque mondiale.
Mais l'étude souligne un gros loupé historique du web, non ?
Ouais, une omission énorme. Le web a fourni un protocole génial pour transmettre de l'information, mais il n'a rien prévu pour l'identité, ni pour l'espace.
C'est-à-dire ?
Bah, tu peux consulter une page web, mais tu peux pas habiter un lieu sur Internet. Tu peux pas non plus transporter ton identité de manière sécurisée d'un site à un autre sans devoir te recréer un compte, taper un nouveau mot de passe et filer tes données à un inconnu à chaque fois.
Ce qui nous amène direct à cette métaphore super parlante dans la recherche, la métaphore des services publics ou « utilities » en anglais.
Ah oui, l'histoire de l'électricité.
Ouais. Mais à la maison, l'électricité, c'est un service public universel. On s'abonne une fois, on a des prix standards dans les murs, et n'importe quel appareil vient s'y brancher. Un frigo, une télé, une lampe. Le fabricant du frigo, il ne nous facture pas un abonnement mensuel à sa propre petite centrale électrique privée.
Ce serait absurde.
Totalement absurde. Mais le modèle économique du logiciel aujourd'hui, il marche exactement comme ça. On paye des dizaines de fois pour la même infrastructure de base, tu vois. On paye Dropbox pour stocker des trucs, Notion pour stocker d'autres trucs, Slack pour stocker des historiques.
On multiplie les comptes parce qu'on n'a pas de prise électrique universelle pour notre identité ou nos données au niveau du protocole.
Exact. Même si l'intelligence artificielle commence un peu à montrer la voie. Maintenant, l'IA devient un service public. On s'abonne à un gros modèle, genre Claude ou GPT, et on le branche partout sur nos outils. On paye une fois et on distribue.
Et si on appliquait cette logique de prise électrique aux éléments qui manquent dans nos ordis ? On arrive enfin au cœur du sujet. Les fameuses quatre primitives identifiées par l'étude.
Les personnes, les espaces, les objets et la mémoire.
Voilà.
On va les décomposer pour voir à quoi ça ressemblerait concrètement si c'était des protocoles. Commençons par les personnes. Aujourd'hui, mon identité numérique, c'est juste une ligne dans la base de données d'une entreprise.
Ce qui est super réducteur. Selon nos sources, la primitive « personne », ça devrait être une entité portable, quelque chose qui t'appartient, au centre d'un vrai tissu de relation.
Comme dans la vraie vie, au final. Ma banquière, ma mère ou le boulanger, ils n'ont pas le même accès à mes infos perso.
Exactement. L'identité numérique, ça devrait être ce réseau relationnel vivant, capable d'ajuster les permissions en temps réel, peu importe le logiciel que tu utilises.
D'accord. Et la deuxième primitive, les espaces. Ça répond un peu à notre besoin de délimitation, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, ton ordi, c'est comme un immense hangar sans aucun mur. Tes loisirs, tes impôts, tes projets pro, tout s'entasse sur la même table.
C'est un peu le foutoir, on va pas se mentir.
Grave. Un espace numérique, en tant que protocole, ce serait un conteneur persistant, avec des limites, une vraie pièce virtuelle. Tu y entres pour faire un truc précis, tu sors tes outils, et quand t'as fini, tu fermes la porte derrière toi.
Et ce qui est dedans, il reste.
Voilà, sans se polluer le reste de ton ordi. Et le gros plus, c'est que cette pièce peut accueillir des éléments de plein d'applications différentes.
Ce qui nous fait la transition parfaite vers la troisième primitive, les objets. Parce que pour avoir des éléments de plein d'applis dans une même pièce, faut bien séparer le contenu de l'outil, non ?
Ouais, la séparation totale. Actuellement, si tu tapes un texte dans Evernote, il est un peu pris en otage par Evernote.
Ouais.
La primitive objet, elle libère ça. Ton texte, ton image ou ton tableau devient indépendant. Tu peux prendre cette note, la poser sur le bureau de ton espace virtuel et l'ouvrir plus tard avec un autre logiciel si tu veux. L'objet t'appartient vraiment, à nouveau.
C'est libérateur comme concept. Et on arrive à la quatrième primitive, celle qui est peut-être la plus complexe, mais aussi la plus dingue, la mémoire.
Ah, la fameuse mémoire.
Il y a cette analogie dans le document qui m'a frappé, entre une chambre d'hôtel et une maison habitée. C'est parfait pour illustrer ce qui manque aujourd'hui.
Vas-y, je te laisse l'expliquer parce qu'elle est excellente.
Une chambre d'hôtel, c'est propre, c'est ultra fonctionnel, mais c'est réinitialisé à chaque fois qu'un client part. Ça n'a aucune histoire. Et ça, c'est l'état par défaut de n'importe quel dossier sur nos ordi aujourd'hui. C'est froid.
Stérile, même.
Stérile, exactement. Alors qu'une maison, c'est saturé de contexte. Si tu sais où était le bouquin sur une étagère, c'est parce que tu te souviens de l'y avoir posé. Il y a une histoire.
Et le défi technique pour en faire un protocole, il est énorme. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un logiciel espion bête et méchant qui enregistre tous tes clics. Hein.
Ça ferait juste une montagne de données inutiles.
Complètement. La mémoire, elle doit capter la sémantique. Elle doit comprendre qui a modifié un objet, pourquoi, quand et avec qui. C'est sauvegarder le contexte social autour du fichier.
Et là où l'étude de Regent Spark Research devient carrément passionnante, ils ont fait un diagramme de fou pour ça d'ailleurs, c'est quand on commence à mélanger ces primitives. C'est pas juste une liste de courses, c'est un système combinatoire.
Oui, c'est de l'alchimie presque. Quand tu croises ces briques de base, tu crées de nouvelles propriétés émergentes.
Essayons de visualiser ça. Mettons qu'on a créé une pièce numérique vide. Bon, c'est juste du code. Mais si on croise le protocole des personnes avec celui des espaces, paf! On obtient quoi ?
Oh, la présence. Exactement. Le fait de voir que ta collègue est dans le même espace que toi, en train de regarder les mêmes dossiers, ça recrée le sentiment physique d'être ensemble. C'est bien plus fort qu'un petit point vert sur Slack.
Ouais. Ensuite, quelqu'un amène un fichier dans cet espace. Personne plus objet.
Ça, c'est la propriété. C'est ton fichier à toi. C'est pas une donnée prêtée par les serveurs d'une boîte californienne. Tu en as le contrôle absolu.
Et une fois que cet objet est dans la pièce, on le pose sur un tableau, on met à côté d'autres trucs, l'espace plus les objets, ça génère ce qu'ils appellent l'agencement.
C'est ce truc très humain de disposer ses affaires visuellement pour comprendre un problème, comme étaler plein de photos et de notes sur une grande table.
C'est ça. Ensuite, on commence à bosser ensemble. Et là, on a besoin de la mémoire. Personne plus mémoire égale relation. L'ordinateur sait l'historique que j'ai avec telle personne. Si je lui parle du dossier en retard, le système sait direct de quoi je parle.
Et comme le travail modifie les fichiers, la friction entre les objets et la mémoire, ça crée la provenance. C'est génial ça. Tu vois pas juste un fichier plat, tu vois un objet avec des cicatrices, avec son histoire. Tu vois les idées qui ont été abandonnées, les brouillons.
Et l'étape finale de cette alchimie, c'est la rencontre entre les espaces et la mémoire. Un conteneur vide qui se met à souvenir des gens, des objets, de tout ce qui s'y est passé. Ça devient un lieu, avec un grand L.
On passe d'un truc géométrique à un truc sémantique.
Et la combinaison de tout ça, présence, propriété, agencement, relation, provenance et lieu, ça aboutit au saint graal de la recherche, la lisibilité.
La lisibilité, ouais.
Un environnement qui s'explique de lui-même. C'est comme quand on entre dans l'atelier d'un menuisier. On voit les copeaux par terre, les outils sortis, le bois entamé. En un coup d'œil, on comprend où en est le projet, sans effort. Informatique devrait être lisible comme ça.
Présenté comme ça, ça a l'air hyper futuriste, de la science-fiction limite. Mais le rapport fait un rappel historique assez cinglant. Les pionniers de l'informatique avaient déjà tout prévu. Il y a plus de 50 ans.
Attends, 50 ans, on parle des années 70.
Même avant. En 68, Douglas Engelbart a fait ce qu'on appelle la mère de toutes les démos. Il a montré de la visioconférence, des curseurs collaboratifs, de l'hypertexte, alors que l'ordinateur personnel n'existait même pas.
C'est fou.
Et dans les années 70, Alan Kay au Xerox PARC théorisait déjà des environnements persistants basés sur l'espace.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a dérivé vers ce cauchemar d'appli fragmenté et amnésique?
C'est l'industrie, les priorités ont changé. D'abord, on a optimisé les ordi individuels, donc on s'est isolé. Le web a relié les documents, mais oublié les gens. Puis, le smartphone est arrivé et a tout enfermé dans le modèle super strict de l'appli mobile. Et le cloud, il a juste pris ses applis fermées pour les mettre sur des serveurs distants.
En gros, on a géré les urgences techniques décennie après décennie, mais on a toujours repoussé la création des fondations universelles.
Exactement.
Pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent à quel point ça changerait la vie, la source donne un exemple ultra concret. L'organisation d'un voyage au Japon avec une amie, disons Sarah.
Ouais, le fameux voyage au Japon.
Aujourd'hui, organiser ça, c'est balancer des liens sur WhatsApp, avoir un vieux Google Sheets dans un coin et une carte Google Maps qu'on galère à partager.
L'horreur classique. Mais dans un monde avec les quatre primitives, tu crées un espace dédié.
Et là-dedans, tu jettes des objets indépendants. Une carte interactive, un tableau pour le budget, tu invites Sarah, donc une personne, dans cet espace.
Et c'est là que la magie opère. Imagine, tu vas te coucher, tu fermes ton ordi. Pendant la nuit, Sarah continue de bosser sur le voyage.
Ouais. Et le lendemain matin, j'ouvre mon ordi, et au lieu d'avoir un tas de notifications stressantes et de fenêtres dans tous les sens, c'est l'espace lui-même qui me fait un résumé.
La combinaison de la mémoire et de l'agencement.
C'est ça. L'environnement me dit de lui-même. Pendant la nuit, Sarah a rajouté 3 restos sur la carte. Et elle a ajusté le budget train en conséquence.
Et si t'ajoutes une IA là-dedans, c'est encore plus bluffant. L'IA n'est pas juste un chatbot externe à qui tu dois tout réexpliquer, elle vit dans le lieu.
Donc, 3 semaines plus tard, si je demande « Au fait, on en était où sur le débat entre les quartiers de Shibuya et Shimokitazawa ?»
Bah, l'IA va pas juste chercher des mots-clés dans 40 historiques séparés. Elle va utiliser la mémoire de l'espace pour te résumer les arguments que vous aviez eus, vos préférences, et te dire que la décision est toujours en suspens.
Honnêtement, c'est le rêve. Mais on va pas se voiler la face. Abandonner l'application pour passer à ce modèle d'espace, la transition s'annonce super violente.
Le logiciel en tant que service, ça repose entièrement sur la rétention de tes données.
Bah oui, ils valent des milliards parce qu'ils nous enferment dans leurs écosystèmes.
C'est ça. Libérer les objets, utiliser un protocole ouvert pour l'identité, ça détruit leur business model. Les géants de la tech n'ont strictement aucun intérêt financier à casser les murs de leur forteresse.
Et puis, il y a le fameux problème de l'œuf et de la poule pour tout nouveau protocole, ce que les anglo-saxons appellent le bootstrap problème.
Oui, un système d'identité universel ne sert à rien si aucun service ne l'utilise, et aucun service ne va l'intégrer si personne ne l'utilise. Faire bouger toute l'industrie en même temps, c'est un vrai tour de force.
Sans parler du défi technique vertigineux de la mémoire Isaac. Parce que construire un protocole qui se souvient du contexte, ça demande de faire un tri énorme entre ce qui est important et le bruit de fond.
Et qui fait ce tri? Si on laisse une IA décider, ça pose plein de questions éthiques et de biais algorithmiques. Comment l'IA choisit quelles interactions humaines valent le coup d'être gardées et lesquelles effacées?
C'est clair. Mais malgré tous ces énormes obstacles, la conclusion de Regent's Park Research, c'est qu'on arrive à un point de rupture. La fatigue numérique est telle que l'inertie de l'industrie va finir par céder. Le modèle de l'appli fermée, il est en train de devenir complètement obsolète. Face à la complexité de nos tâches.
L'histoire des réseaux nous montre que le besoin d'universalité finit toujours par gagner contre les systèmes propriétaires.
C'est un peu la leçon majeure de notre analyse d'aujourd'hui. La solution à notre surchauffe mentale devant nos écrans, ce ne sera pas d'installer une énième appli de productivité magique.
Ah ça, non.
L'avenir, c'est vraiment la destruction du concept même d'application tel qu'on le connaît. Faut le remplacer par ces infrastructures invisibles pour que nos ordis redeviennent de vrais lieux de vie.
C'est presque un retour aux sources de l'interaction humaine. Reconnecter notre identité, nos espaces, nos outils et notre histoire commune.
Ça donne vraiment envie. Cette promesse d'un environnement numérique lisible, apaisé, avec une mémoire infaillible. Mais en préparant cette émission et en poussant cette logique de mémoire persistante jusqu'au bout, il y a une dernière réflexion qui m'est venue, un peu provocatrice.
Ah, laquelle ?
Bah, si demain nos espaces numériques se souviennent absolument de tout avec une précision parfaite, chaque brouillon jeté, chaque hésitation dans un chat pro, chaque petit pas de côté, et que c'est conservé comme une vieille maison de famille garde les traces de ses habitants. Qu'est-ce qui arrive à notre droit à l'oubli ?
Ouh, vaste sujet.
Eh oui, parce que cette fameuse capacité à effacer le tableau blanc, qui nous frustre tant aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui nous permet de repartir à zéro, non ? De changer d'avis, de nous réinventer, sans traîner le poids de notre propre passé numérique à chaque clic. C'est une question qu'il va falloir sérieusement se poser si on construit ces protocoles de mémoire.
C'est sûr que la frontière entre un ordinateur qui nous soutient et un ordinateur qui nous fige dans le passé risque d'être très fine.
En tout cas, c'est là-dessus qu'on va laisser ceux qui nous écoutent méditer aujourd'hui. Une belle réflexion sur l'avenir de nos écrans et de notre mémoire.